toujours sur Radio Vassivière. On est à la Métive, au Moutier d'Ahun. Et avec moi, il y a une belle brochette de personnes, puisque je suis avec Mille, Lu et Steph. Bonjour à tous les trois.
Salut.
Hello.
Bonjour.
Alors, on est à la Métive pour pas n'importe quelle raison. On était pour la sortie, le milieu, la présentation de résidence. On est sur quel endroit de la résidence ?
Moi, je dis présentation de projet, parce que sortie résidence, ça fait trop comme si j'allais jouer un spectacle. Et en fait, juste, je parle. C'est une ouverture publique sous la forme d'une présentation de projet.
Voilà, et donc c'était la présentation de projet de ton projet, Mille, qui s'appelle donc Cat Girl. Ça s'est bien passé ? On en revient tout de suite.
Oui. Oui, ça s'est bien passé, je crois. Il faut demander au public. Mais moi, oui, c'était chouette. Ça faisait peur de parler pour la première fois de ce projet à des gens. Mais aussi, c'était très joyeux. Donc, c'était cool.
Alors, on reviendra un peu sur qu'est-ce que c'est Cat Girl et pourquoi est-ce qu'on en parle. Mais avant ça, je vais quand même présenter les autres protagonistes de ce plateau. Avec nous, il y a aussi Lu. Bonjour, Lu, comment tu vas ?
Bonjour, ça va. Je suis contente que ça soit bien passé, que toutes les petites bricoles qu'on a inventées ces derniers jours aient fonctionné pour la petite démo de Mille, puisque normalement je fais la régie, mais comme il y a des gens qui voulaient voir la présentation et qui ne pouvaient pas être là, on l'a filmé. Enfin, je l'ai filmé, donc j'ai laissé la régie à Mille.
Et ça s'est très bien passé. En tout cas, moi, j'ai rien vu.
J'avais très peur, mais ça ne s'est pas vu, car je fais également du jeu.
Et donc voilà, donc toi, Mille, Lu, pardon, tu es sur la partie du coup régie vidéo, régie technique de ce projet.
Oui, la technique en général, mais ma spécialité, c'est la vidéo en direct. Là, c'est un peu nouveau pour moi parce que je n'ai jamais vraiment pratiqué le stream Twitch tel qu'il est abordé dans le spectacle. Mais j'ai les outils qu'il faut pour transposer ça au spectacle vivant, parce que pour mettre ça sur un plateau, on a des problèmes que les gens qui font Twitch pour de vrai n'ont pas du tout. Et on se prend les pieds dans les problèmes depuis le début à faire communiquer le monde de la télévision et le monde du stream qui ne sont pas faits pour. Mais je m'amuse bien.
Et ben on y reviendra, parce qu'en tout cas, moi, ça fait partie de mes endroits de curiosité de ce projet. C'est peut-être le côté technicienne, mais en tout cas, j'ai un peu envie de savoir comment ça s'est passé pour toi d'en arriver à cette chambre de blanche dans laquelle on était tout à l'heure. Mais avant ça, je vais présenter aussi Steph. Salut Steph.
Salut.
Alors toi, tu nous viens de Guéret, de la capitale.
Ouais, je suis conseiller numérique à la quincaillerie numérique aussi. À Guéret.
Alors, on va peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est la quincaillerie numérique.
C'est un tiers-lieu, espace de coworking. Il y a un Fab Lab, il y a une salle de concert, il y a même une radio, puisqu'il y a RPG. C'est là qu'on s'est vu la dernière fois, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, on peut y venir tout simplement pour boire un café, travailler en accès libre ou louer une salle de réunion, peu importe.
Et alors toi, ton travail de conseiller numérique, ça consiste en quoi ?
Accompagner les gens dans leurs usages, leur envie de progresser, et puis parfois décoincer des petits couacs du numérique, comme j'ai un ordi qui rame, et moi je propose souvent d'installer Linux dessus pour que l'ordi dure plus longtemps.
Très bien.
C'est ma petite passion, spécialité.
On y reviendra. En tout cas, Steph, on t'a invité autour de cette table parce que, justement, l'idée de ce plateau radio, c'était peut-être de prolonger un petit peu la discussion, parce que, du coup, Mille travaille depuis une semaine sur ce projet, et puis je pense que tu l'as en tête depuis un petit peu plus longtemps. Et du coup, l'idée, c'était aussi de pouvoir un peu étendre la réflexion, l'ancrer dans le territoire. Mais voilà, avant ça, on va peut-être quand même raconter ce que c'est Cat Girl. Alors, Mille, est-ce que tu veux bien te lancer ?
Absolument. Alors, Cat Girl, donc, c'est un projet de théâtre et de performance numérique à show multiple qui raconte l'histoire de Blanche, qui a 16 ans, qui est streameuse de jeux vidéo sur Twitch et qui décide qu'elle veut faire ça comme carrière. Mais décoller sur Twitch, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de contenu. Et donc, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire pour faire le buzz ? Je vais faire un stream qui va durer 7 jours en continu, en interaction avec le public et du public du stream, et en les laissant à peu près décider de la majorité des choses qui vont se passer dans ce stream.
Et donc du coup, le public de ce stream, bon, y a un chat, qu'on peut voir à l'écran au moment où on voit le spectacle, mais il y a aussi le public du spectacle qui fait
qui
partie
actif,
un peu
oui.
du chat, c'est
ça ? Absolument, c'est ce qu'on voit au plateau, donc c'est la chambre de Blanche. C'est son stream reproduit, projeté sur un écran, donc sa caméra en live à elle, où on la voit, sa webcam, la partie du jeu vidéo auquel elle est en train de jouer, ou juste son image à elle, selon comment elle interagit avec le public, le chat qui sera un chat écrit et rédigé dans lequel il y aura des petits personnages, et surtout le fait que du coup le public du stream se substitue, enfin le public du théâtre se substitue au public du stream dans la mesure où chaque personne, j'essaye de le dire pour que ça devienne vrai, chaque personne du public aura une petite boîte avec 4 boutons A, B, X, Y de couleur comme sur une manette de jeu vidéo et pourra à tous les moments du spectacle, enfin vraiment des moments très réguliers, décider de ce qui se passe puisqu'il y aura un moment de choix où c'est donc les gens qui vont voter anonymement en direct, en live. Et décider de la suite du spectacle, de la scène suivante. Pour l'instant, il y a 4 fins de scènes à écrire pour que chaque représentation soit unique et qu'il faille revenir pour débloquer des scènes bonus, par exemple.
Et c'est quoi les choix, par exemple ?
Et c'est quoi les choix, par exemple ? C'est « Et maintenant, à quoi on joue ?» Et donc les 4 choix possibles qu'on a écrits pour l'instant avec Lu, c'est par exemple le choix A, c'est Fortnite, le choix B, c'est Resident Evil 5, le choix X, c'est Adopt Me sur Roblox, et le choix Y, c'est Just Dance. Et donc il faut choisir en temps réel, et ensuite on avance dans le spectacle avec le jeu qui a été choisi, et qui donc aura des conséquences aussi sur la suite, jusqu'à de la fin la 1 la plus chouette, à la fin 4 la plus dure.
Et donc Blanche, c'est une cat girl. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce que c'était les enjeux qui t'intéressaient toi dans le fait de mettre en scène ce personnage ?
Oui, grave. Et ben une cat girl, c'est donc un personnage avec des traits félins, des oreilles de chat, des petites pattes de chat, une queue de chat. Vous avez l'idée. Qui nous vient d'un double imaginaire, à la fois l'imaginaire général du Japon, de la Chine, de la Corée, et tout le mélange un peu essentialisant orientaliste qu'on fait en Occident sur c'est quoi cette image-là, qui vient notamment du coup des animés, des personnes qui sont otaku, des fans de manga, de jeux vidéo, de toute la culture nippone, mais pas que, qui est souvent amalgamée ensemble. Aussi un peu de l'imaginaire de Catwoman, quand même, qui vient des États-Unis et de l'univers des comics. Et donc c'est un personnage qui est apparu sur internet au début des années, entre les années 2000 et 2010, d'abord sur YouTube. Une des grandes représentantes de ce mouvement des e-girls, c'est Belle Delphine, qui est arrivée sur YouTube en 2013, qui se définissait comme une jeune fille mi-chat, mi-elfe, une fille bizarre, mi-chat, mi-elfe, c'était ça son... Je vais dire son épitaphe, elle n'est pas morte, pas du tout, mais son slogan, et qui du coup une figure qui ne dit pas vraiment son nom, enfin dit qu'elle est un chat, mais ne dit pas ses origines, qui sont donc souvent très féminines et très asiatiques, sans le dire, et donc parfois aussi souvent très sexualisées.
Et donc Blanche, elle a 16 ans, elle est blanche.
Et oui, c'est subtil, non ? Je suis un grand auteur de théâtre.
Et donc c'est une jeune femme. Est-ce que ça correspond un peu aux personnes que tu vois passer, toi, à la quincaillerie numérique ?
Steph ? C'est difficile de raccourcir ça comme ça. plein de gens, de plein d'âges différents, de plein d'origines différentes. En plus, ça peut être des gens qui viennent pour qu'on les aide pour, par exemple... une tâche administrative, genre je voudrais une carte de séjour, genre je voudrais une carte de transport, ça peut arriver aussi ce genre de choses. Et puis moi j'ai l'impression que c'est le monde dans sa globalité, c'est-à-dire pas spécialement segmenté. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, tout à fait.
C'est ouvert quoi.
Et justement je me disais, on est quand même sur deux approches du numérique un peu différentes. Toi en tant que conseiller numérique, t'es plutôt justement dans un rôle de facilitateur.
Ouais.
Et alors que Blanche, typiquement, elle est hyper à l'aise en fait sur les réseaux. Elle a pas besoin d'aide.
Oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est la génération alpha, les gens qui sont nés à partir des années 2010 et qui, bien sûr, ne sont pas tous des giga geeks, mais en tout cas qui ont un accès aux écrans parfois très 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 jeunes. Moi, dans l'idée que je me fais du personnage de Blanche, qui est quand même un peu stéréotypé, mais pour les besoins de la narration, pour moi, c'est quelqu'un qui, par exemple, a eu sa première tablette à 3 ans.
Ouch.
Ouais, voilà. qui a grandi avec les comptines de YouTube Kids, qui est arrivé sur Discord et dans le monde du jeu vidéo à 9 ans.
On dit pas, il n'y a pas un truc qui dit pas d'écran avant, je ne sais plus, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus.
Bah, ça dépend des ondes cloches, mais, mais il s'avère que, en fait, de fait, par exemple, le créateur de YouTube Kids...
Tu rabats joie, désolé.
C'était un papa, non, mais c'est grave, c'était un papa qui a créé ça, des premières petites comptines pour son bébé, pour son nourrisson. Et donc, en fait, il y a des usages numériques qui arrivent voilà, très, très, très tôt et qui ne sont pas forcément bien gérés, puisque pas bien compris. Mais ça, tu le sais.
Et parce que sur des plateformes prédatrices aussi.
Aussi.
Ah, ça joue vachement hein, là-dessus. Hein, sur, on est vraiment toujours sur la corde, comme ça, sur la brèche. Et, je me permets. Je trouve que ça fait des allers-retours entre une certaine forme de voyeurisme. Donc, parce qu'on va filmer un espèce de quotidien de la douche jusqu'à la chambre. Et en même temps, une forme d'addiction aux écrans... dans les deux sens, hein, à la fois la personne qui est filmée et puis les autres, le reste du monde qui regarde. Il y a un petit côté malsain quand même.
Ah, bien sûr.
Je c'est pas pour être moralisateur, mais c'est vrai que c'est intéressant quoi, de jouer, oui, oui. Jouer sur, ce, sur cette espèce d'opposition.
Ça vient aussi de mon vécu, le tien aussi un peu lu, mais moi j'ai grandi sur YouTube beaucoup, et notamment à regarder un streamer qui streamait sur YouTube à l'époque, c'est parti, et moi j'ai regardé des heures et des heures, je sais pas pourquoi, mais vraiment ça me fascinait, et de regarder des heures et des heures de PewDiePie, en plus qui a quand même bien mal vieilli, qui était hein, le roi de YouTube pendant tout un moment, la chaîne la plus suivie de YouTube qui a été détrônée depuis, mais qui est un YouTuber suédois, qui est un gros masculiniste, qui a très très mal tourné, et raciste et tout ce qu'on veut de pas bien en iste.
Libriste.
De quoi ?
Libriste.
Non, libriste, c'est bien.
C'est bien, mais c'est il est aussi libriste.
Ah bon ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, il a découvert que Linux, ça marchait bien, donc on va recevoir plein de fachos dans les communautés libristes maintenant.
Super. Voilà, mais donc j'ai grandi en regardant PewDiePie jouer à The Last of Us, notamment j'ai regardé l'intégralité du Let's Play de The Last of Us. Et donc oui, il y a grave cet endroit de fascination, un peu de... Mais du coup, pourquoi je jouais pas moi ?
Et... C'est un peu Ouroboros, quoi, le serpent qui... C'est... Si tu veux, je pense que ça peut être intéressant pour découvrir des petites astuces sur les jeux, mais en même temps, tu es en train de regarder quelqu'un qui joue à ta place, c'est ce que tu viens de dire, et tu finis par te dire... Mais... Enfin... Ce que tu viens de dire, c'est pourquoi c'est pas moi qui joue en fait.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup entendu cette réflexion arriver avec le streaming de jeux vidéo, mais jamais de la part des papas et des tontons qui regardent le foot à la télé. Pourquoi vous n'allez pas jouer au foot ?
Bah ouais.
Pourquoi vous êtes avec votre bière devant la télé ?
Et maintenant, il y a l'e-sport aussi.
On peut regarder des gens qui jouent au foot sur un ordinateur depuis chez soi.
Oui. Qui jouent même au foot sur un ordi. On vit dans une société. Et je me disais, à la quincaillerie, il y a des ordinateurs en libre accès.
Ouais. Ils sont deux fois libres. Ils sont en libre accès et ils sont sous Linux.
Ils sont super libres.
Ils sont super libres.
Et du coup, est-ce que par ce biais-là, toi, tu vois aussi venir justement des publics qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'informatique, un peu dans l'idée des blanches? Ou est-ce que justement ces personnes-là, tu as l'impression que toi, en tant que conseiller numérique, de toute façon, tu ne les vois pas ?
Il y a une espèce de virage là qu'on peut observer, notamment chez les jeunes, c'est qu'ils vont être plutôt équipés en smartphone. Et ces gens-là ont moins besoin de l'informatique type ordinateur. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf peut-être des fois pour des démarches administratives, mais sinon, dans l'usage du quotidien, c'est une frange de la population qui est autonome, quoi, avec le téléphone dans la poche, ou dans la main, ou les deux. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question.
Ben non, mais c'était un peu pour savoir si justement, toi, tu voyais aussi, alors, dans ton travail de conseiller numérique, ou peut-être pas, en fait, peut-être que c'est juste justement pas, des gens qui sont dans un usage très à l'aise du numérique et où justement peut-être peut se poser la question de « Ah, attention, mais en fait, à qui tu donnes accès à toi, à qui tu donnes accès à des choix sur ta vie, etc. etc. »
Sans être moralisateur, on est là pour accompagner, on est là pour être bienveillant et parfois, on est obligé de prendre un peu position. Tu vois, l'autre jour, quelqu'un qui maîtrise pas du tout, je cite un exemple, hein, quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout l'outil, qui a un smartphone qui est déjà obsolète et qui me dit j'ai besoin d'aide, je voudrais ouvrir un compte en Angleterre. Je lui dis pourquoi pas, pas de souci. Puis au bout d'un moment, je finis par poser quand même quelques questions. Et bonne pioche, en fait, il voulait ouvrir un compte en crypto-monnaie. Je me suis permis de faire une recherche sur un moteur de recherche et Red Alert, quoi. Les deux ou trois premiers résultats, fraude, arnaque, etc. J'ai fini par lui dire, je suis désolé, mais on va s'arrêter là. Je vais arrêter de vous aider parce que je ne veux pas que vous perdiez tout votre argent. En plus, c'est une personne qui avait l'air d'être en difficulté sur plein d'autres choses. Je me suis senti obligé de dire, bon, ben là, il y a un cas de conscience, je suis désolé. C'est dangereux ce que vous faites. Et le monsieur me dit, ah, mais j'ai déjà versé 250 euros. Je dis, ben, je pense que vous les avez perdus. C'est un exemple. On est obligé d'être dans un accompagnement qui reste bienveillant. Attention, là, ça craint. On était en plein dedans.
Toi, du coup, Mille, dans ton travail de direction artistique, conseils explicites. Mais du coup, c'est quoi ton approche là-dessus sur... sans être moralisateur, comment est-ce que tu gères cette chose-là d'avoir une opinion sur des sujets, de vouloir les mettre en scène et en même temps, le but, je suppose, c'est de ne pas expliquer aux gens comment vivre.
Bah oui, absolument. Ben, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'interactivité, c'est aussi de partager les responsabilités quelque part. Après, bien sûr que c'est moi qui les ai écrits, ces choix, donc c'est tracé d'une certaine manière, mais c'est aussi pour ça que j'essaie de me concentrer sur cette question à la fois donc des violences sur les mineurs, des violences pédocriminelles qui peuvent arriver sur Internet, et des questions de sexualisation et des questions raciales, qui sont déjà un assez gros spectre.
Ça cumule, quoi.
Oui, voilà. Et de ne pas en prendre plus, en me disant, déjà, c'est pas mal à traiter. Et après, comment je prends position sans prendre position ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses... C'est une opinion sur l'art de manière générale, mais ce qui m'intéresse, ce qui me touche et ce que j'ai envie de faire, c'est aussi un art sensible qui est ciné autobiographique, qui est informé par une expérience vécue, vraiment. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas de faire des recherches, et j'en fais beaucoup pour mes spectacles. Mais que du coup, il y a une part aussi de réflexion sur l'authenticité de ces situations et sur la réalité de ces situations, et plus de partir. Y a une. Auto quelque chose, c'est plus de l'autofiction. Parce que je trouve que ça permet à un endroit du coup de vraie liberté créative de dire ok, en fait je parle de choses que j'ai vécues, donc je sais un peu de quoi je parle, et en même temps j'ai vécu ces choses-là il y a 10 ans, donc en fait ça a changé depuis. Et aussi garder la posture d'humilité, quoi, de se dire en fait il y a des choses que je sais pas, et c'est chouette de pas savoir, et je vais chercher. Et du coup de se dire je mène une réflexion commune avec le public et j'essaye de les emmener à un endroit d'interrogation plus que de faire, c'est pas un manifeste politique ce spectacle, et le spectacle de manière générale, je pense, et c'est pas non plus un cours pédagogique, et en fait c'est super que ces deux autres formes existent par ailleurs et on en a tout à fait besoin, et je pense que l'art s'inscrit aussi dans cette réflexion là, c'est cet endroit là de positionnement qui permet de participer au débat public de ce point de vue là. Mais mon idée, voilà, c'est aussi de... En fait, l'idée des petites boîtes et du choix interactif, c'est aussi que chaque personne soit aussi mise face à sa responsabilité à la fois individuelle et à la responsabilité collective qui arrive quand on est un public d'un spectacle, c'est-à-dire qu'on est à la fois soi-même et à la fois le public. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment on peut se laisser entraîner potentiellement dans des dynamiques collectives sans vraiment bien comprendre ce qu'on fait et en fait se retrouver à participer à un truc qui en fait est terrible. Et ne pas avoir vu où était le glissement. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
Moi, ça me rappelle le naufrage de la télé-réalité depuis les années 2000. C'est justement, on parlait de voyeurisme tout à l'heure. Je trouve que d'un point de vue sociétal, ça a été il y a eu une fracture, quoi. Des gens qui passent leur vie à regarder d'autres gens parfois rien faire. C'est abyssal. Mais c'est, après, je voudrais juste réagir sur un truc que tu as dit. Tu as dit que ce n'est pas un manifeste politique. J'ai envie de dire, en fait, tout est politique. Il y a quand même une intention, une observation du monde.
Ah oui. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose.
Bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord que l'art est politique et que ce spectacle est politique, absolument. Mais pour moi, dans le manifeste, il y a aussi une écriture...
Il y a une seule version de ton manifeste. à un moment donné. Alors que là, quand on commence le spectacle, on ne sait pas ce que le public va en faire.
Oui, puis il y a aussi un endroit de... Enfin, moi, j'aime à dire que ce n'est pas du militantisme, parce que pour moi, le militantisme, c'est autre chose. C'est s'engager dans la vie civile, s'engager dans des partis politiques, faire des manifs, faire des trucs très concrets. Et ben, on a beau se donner des beaux grands airs dans le théâtre, on ne fait pas ça. Et moi, je crois très fort au pouvoir émancipateur du théâtre et à la coprésence et à changer les imaginaires et à travailler sur la visibilité. Mais ça ne suffit pas du tout. Et du coup, je trouve que c'est aussi garder une posture un peu d'humilité sur ce qu'on fait comme pratique artistique, de se dire, en fait, parfois, l'action directe aussi, c'est très bien. et sur le sujet, voilà, entre brûler des data centers et faire ce spectacle, je pense que c'est plus utile de brûler des data centers. Cependant, je fais ce spectacle car c'est ce que j'ai envie de faire. mais je serais ravie que des gens brûlent des data centers par ailleurs.
Très bien, et ben je vous propose qu'on fasse une pause musicale sur ces belles paroles. On va écouter un morceau que tu m'as proposé, Steph. C'est Trelabundin.
Ouais.
Est-ce que tu crois que je le prononce à peu près bien ?
Je pense, oui. C'est une chanteuse des îles Féroé qui s'appelle Eivor.
Et ben écoute, on l'écoute tout de suite. De retour à la Métive avec Mille, Lu et Steph. On discutait du spectacle Cat Girl. qui est en cours de création et qui était donc en résidence à la Métive. Et moi, il y a quand même une question qui me taraude. C'est donc, Lu, toi, tu as donc Mille vient te voir en te disant « Voilà, je voudrais faire un spectacle dans la chambre d'une adolescente qui stream. Oui. » Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? Bonne question, parce que je dirais pas que Mille est venu me voir avec ce projet, parce qu'on se voit quand même très souvent, donc je saurais pas dater à quel moment j'ai commencé à entendre parler de ce projet. Mais oui, étant donné mon panel de compétences en vidéo et mon expérience dans le spectacle vivant, je pense que c'est ça qui a poussé Mille à m'en parler à moi.
Bah, parlons-en, du coup, c'est quoi toi ton boulot d'habitude ?
D'habitude, mon boulot, alors le boulot que j'aime bien, c'est de réaliser du direct, comme à la radio, mais avec des images. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça à la radio, parce que quand on ne sait pas faire, ça s'entend encore plus vite. On ne peut pas mettre un carton qui dit « attendez, on arrive ». Donc respect à la radio. Mais ce que j'aime, c'est donc la vidéo en direct, en particulier quand c'est de la culture, quand c'est du concert, quand c'est du...
Chers auditeurices, suite à un problème technique, les prochaines minutes de l'enregistrement que vous écoutez ont été très dégradées. Alors pour votre confort d'écoute, nous avons retranscrit l'intervention de Lu et elle sera jouée par une comédienne. Mais ce que j'aime, c'est la vidéo en direct, en particulier quand c'est de la culture, quand c'est du concert, quand c'est du spectacle, ce genre de choses. Mais comme j'aime bien quand c'est de la culture, ça veut dire que j'aime bien quand il n'y a pas de sous. Et quand il n'y a pas de sous, il n'y a pas de vidéo, parce que la vidéo, ça coûte cher, autant le matériel que moi. Donc ce que je fais, c'est que pour boucler mes heures d'intermittence, au lieu d'aller bosser pour les gens qui ont des sous et qui veulent de la vidéo, je reviens à mes racines, on va dire, qui sont le théâtre et la régie lumière en particulier. Donc voilà, je fais de l'intermittence à plusieurs endroits et au final, entre la vidéo et le spectacle, je m'en sors plutôt bien. Sur ce projet en particulier, je ne fais pas vraiment de la vidéo en direct. Pour décrire le contexte, là on est sur le plateau, derrière nous il y a le bureau de Blanche, avec un écran d'ordinateur, une valise technique qui suggère un PC fixe, et qui n'existera pas dans le spectacle final, puisque l'actrice ne jouera pas au jeu vidéo en direct, ce serait une performance supplémentaire qu'on ne va pas lui demander. Donc, il y a un écran qui est devant elle et qui présente son stream, comme ça, ça lui fait un retour tout simplement de ce qui se passe, notamment pour jouer. Dessus, il y a une petite caméra qui sert de webcam, mais qui est en fait beaucoup plus poussée en termes de contrôle, puisqu'elle permet de faire du direct et de rentrer dans une régie professionnelle. Il y a un clavier et une souris aussi qui ne sont branchés à rien, et il y a une manette de jeu vidéo aussi. Et puis les petits boîtiers qui permettent au public de voter, donc là ils sont sur le bureau pour la présentation, mais ils seront dans le public à la fin, et ces petits boîtiers actuellement ce sont des boîtes de dérivation électrique de taille standard, gris, moche, mais qui représentent bien la taille et le format que ça aura quand ce sera fini. Il y a 4 boutons A, B, X, Y avec les couleurs qui correspondent à une manette de Xbox mais en beaucoup plus gros, avec l'idée que ce soit accessible, que ça ne demande pas d'avoir un smartphone et une connexion internet. Parce que la mode, c'est d'afficher un QR code et les gens ils vont se connecter, mais ça, on ne veut pas pour des raisons d'accessibilité, mais aussi parce que si on demande aux gens de sortir leur téléphone pendant le spectacle, ça n'aide pas à rester concentré. Après, on regarde ses messages, puis une photo du chien, enfin bref. Voilà, ça c'est le bureau, et puis après, il y a une petite lampe pour qu'on voit la streameuse. Et puis là, en plateau, on a un canapé qui est déguisé en lit, avec un tabouret qui, lui, est déguisé en table de chevet, avec un petit bouquin dont on n'a pas montré la première de couverture parce que ça fait partie des inspirations du spectacle et que ça serait pas très cohérent que Blanche, avant de s'endormir, lise un livre « Racisme et jeux vidéo » de Mehdi Derfouki qui critique et qui parle de ce qu'elle est en train de faire. Donc ça, c'est à cour, le bureau est au milieu et à jardin, il y a un drap noir qui figure une cabine de douche. Et puis bien sûr, après le plateau, il y a la régie. Mais sur le plateau au fond, il y a un écran géant qui affiche le stream, qui n'est pas vraiment streamé sur Internet, en tout cas pas à ce stade. C'est peut-être en projet, mais ça rajouterait des difficultés. Donc il y a des difficultés à mettre un stream au plateau, et j'y viens. Mais voilà, pour faire du streaming sur Twitch, les gens utilisent Streamlabs, qui est une version d'OBS Studio, qui est un logiciel de streaming qui permet de créer des scènes, un peu comme vous dessineriez des choses sur Illustrator, mais en intégrant des sources live comme de la vidéo, avec des éléments dynamiques pour afficher le chat de façon personnalisée. Plein de choses comme ça, très intéressantes, assez faciles, assez intuitives.
mais ça tourne sur un ordinateur, et un ordinateur, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire tout pas très bien. Donc de la vidéo, ça le fait, mais ça prend un peu de temps, donc il y a un peu de latence. Donc utiliser OBS pour faire du stream, ça va, puisque les gens qui sont chez eux à 800 km, ils ne voient pas le décalage de une seconde entre le moment où la personne parle et le moment où ça arrive à l'écran. Alors que là, sur un plateau, si la personne lève la tête et qu'elle a le temps de voir son visage sur l'écran une seconde plus tard, c'est pas très agréable, ni pour la personne, ni pour le public. Donc on peut pas faire ça avec OBS parce qu'on a de la latence. Et donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qui marche en vidéo sans latence ? La régie type télévision, type broadcast. Et c'est super, mais c'est ultra rigide et c'est pas du tout fait pour streamer sur Twitch. Donc pour faire notre stream au plateau, on a un OBS qui fait toute la partie qui ressemble à Twitch et un mélangeur de télévision qui rajoute par-dessus la caméra, là où il ne peut pas y avoir de latence. Qui est de la latence sur la partie jeu vidéo, on s'en fiche, puisqu'elle ne joue pas vraiment blanche, donc il peut pas y avoir vraiment de latence. Mais on a donc un OBS et un mélangeur professionnel qui discutent et qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble. Et il faut qu'à un moment, j'appuie sur un seul bouton et qu'il ne se marche pas dessus ni qu'on affiche les trucs dans le désordre. Et ça, ça se joue à la dizaine de millisecondes. Donc voilà mon enfer personnel depuis 10 jours. Dans cette solution, il y a donc OBS qui est un logiciel libre, un mélangeur professionnel qui pour le coup n'est pas libre, et il y a une troisième partie qui est à mon avis la plus importante qui s'appelle Bitfocus Companion et qui est ce qui permet de faire le lien entre les deux.
Qui ressemble tous les morceaux et qui permet d'afficher des boutons sur des stream decks qui sont aussi utilisés par les streamers et streameuses d'ailleurs. Mais nous, on utilise un logiciel qui n'est pas fourni avec, mais qui est autre chose et qui permet de faire des boutons qui peuvent à la fois faire une manipulation sur le mélangeur professionnel, à la fois afficher quelque chose sur OBS, et à la fois allumer la lumière dans la pièce si vous voulez, et même peut-être lancer un cycle d'essorage. Il y a vraiment environ 6 ou 700 machines différentes compatibles avec ce logiciel qui est communiqué en réseau. Et donc avec l'appui d'un bouton, on peut faire plein de choses synchronisées. Et donc voilà les trois principaux ingrédients de cette régie.
Peut-être juste dire aussi que Bitfocus, c'est un logiciel, du coup les boutons sont virtuels, mais le Stream Deck, c'est la version physique, qui c'est une petite boîte avec d'autres petits boutons, qui du coup sont la manifestation physique des boutons.
Voilà, c'est un clavier, mais chaque touche est un petit écran. Et il y a, je ne sais plus combien, une trentaine de touches sur la version que j'ai ici. Et je peux faire apparaître n'importe quelle image reliée à n'importe quelle action ou série d'actions sur n'importe lequel de ces boutons. Et c'est super pratique. Et on peut aussi émuler un Stream Deck sur une page web. Et c'est ce qu'on a fait pour la présentation. Le téléphone de 1000, voilà, exactement. Le téléphone de 1000 était en Wi-Fi avec le reste de la régie. Et il a pu aller parler directement à mon ordinateur dans lequel il y a la glu en question. Et lancer les actions en appuyant sur les boutons de la même façon qu'avec le Stream Deck, mais sur une page web sur le téléphone.
Télécommande magique.
En résumé. Et bah, trop bien, merci. C'est assez fluide en tout cas à voir et bravo pour avoir trouvé ces solutions techniques. Toi, c'est quelque chose que tu fais, Steph, d'aller choper des solutions à des problèmes que tu n'as pas au moment où on te pose la question ?
N'importe quel moteur de recherche est souvent mon meilleur allié. En fait, j'apprends moi-même avec les soucis qu'ont les gens sur leur machine, sur leur téléphone, sur leur tablette. Et on ne trouve pas toujours la solution. Mais ces dernières semaines, par exemple, c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai progressé en aidant les gens. Donc c'est cool aussi. Mais en tout cas, ça doit être un sacré challenge. Je reviens sur ce que tu racontais et comment t'expliquais tout ça.
Oui, à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on modifie quelque chose sur un bouton, ça en casse 8 autres et il faut recommencer. C'est fatigant, parfois frustrant, mais...
Pas trop de stress ?
Non. C'est la première fois que j'ai 15 jours pour préparer une régie. D'habitude, on a 2 jours pour imaginer quelque chose, puis 3h30 pour l'installer et le faire fonctionner dans une salle où on ne pouvait pas rentrer plus tôt. Et après, c'est en direct. Donc, c'est très étrange d'avoir le temps pour quelqu'un qui vient de l'événementiel. Et
c'est la chance de pouvoir bénéficier de ce genre de résidence. Quoi,
c'est justement la chance qu'on a de pouvoir être accueilli à la Métive avec des équipements et des endroits adaptés aux besoins qu'on a en création, en fait.
Un cadre magnifique et une équipe hyper accueillante Et oui, et ce temps-là, il est super précieux, d'autant plus dans la crise qu'on traverse, enfin tous les secteurs, mais notamment le secteur de la culture, c'est les coupes budgétaires, c'est aussi ça, c'est ce temps de travail, de recherche, d'expérimentation, qui est coupé de toutes parts. Et du coup, c'est très précieux de l'avoir. On est là 2 semaines. Avec une bourse de résidence, qui est quelque chose qui n'est pas très commun, notamment dans le milieu du spectacle vivant. Quand il ne faut pas payer pour louer des salles pour répéter, c'est de la mise à disposition à titre gratuit. C'est très rare d'avoir des lieux qui, en plus, fournissent de quoi vivre en dehors de chez soi pour ce temps-là. Et donc, c'est vraiment très précieux. Et aussi, je travaille avec toi, Lu, parce que tu es zen, très sereine face au stress. Et que c'est très bien, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup paniquer et à être très anxieux. Et toi, non. Donc, c'est super.
Justement, ouais, c'était un peu la question que j'avais envie de te retourner aussi. Est-ce que toi, tu bricoles? Est-ce que tu inventes pour quand tu te retrouves face à un nouveau projet?
Alors, je bricole avec des mots. Alors, je ne sais pas si c'est tellement plus... C'est pas très tangible, quoi. Mais oui, j'ai plein d'idées tout le temps, de trucs. Et j'essaie de les faire rentrer dans un spectacle. C'est surtout ça, mon mode de fonctionnement. Et après, j'imagine plein de choses. Moi, j'ai un peu un background technique quand même, parce que j'ai fait des études de régie lumière et de régie vidéo. C'était les deux ensemble pendant 2 ans, en alternance, en apprentissage. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris et je suis ravie d'avoir ce bagage-là. Et je me suis même demandé à un moment si la lumière, c'était ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, non. Enfin, j'ai envie de faire des spectacles. Mais n'empêche que d'avoir ce regard-là, d'avoir quand même un regard technique sur les choses, ça permet de penser les spectacles un peu dans leur globalité. Et parmi toutes les multicasquettes qu'il faut avoir quand on est porteuse de projet et ou directrice d'une compagnie, ben, c'est très précieux d'avoir ce regard technique-là. Après, je touche aussi du doigt les limites de mes compétences vidéo, parce que moi, je n'ai pas fait d'événementiel, j'ai toujours fermement refusé d'en faire.
La formation que tu as eue en régie vidéo pour le spectacle est aussi très différente de tout ce qu'on peut connaître dans mon milieu professionnel, on va dire, qui n'est donc pas forcément le spectacle vivant en vidéo.
Et oui, et du coup, ben, mon processus de travail, c'est aussi d'imaginer plein de choses et d'après aller voir lui en lui disant « Et là, alors vraiment, ce serait super qu'il se passe ça. » Mais j'entends bien que peut-être c'est pas possible. Et après, lui me dit « Ah si, ça, c'est très facile. Ou alors ça, non, jamais. »
Et parfois, 10 minutes plus tard, je me rends compte que, en fait, si, j'avais juste pas tout lu.
Voilà, on avance par petits pas comme ça.
Eh ben merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale. Et si le public a des questions, c'est peut-être le moment de vous manifester. On a un petit micro HF que je vais vous faire passer dans le public. Enfin, tout de suite, on écoute un morceau que vous avez choisi. Est-ce que toi, tu le vois, Mille? Est-ce que tu peux nous dire?
Oui. Alors, c'est une musique de mème des années 2000. C'est Caramel Dansen.
Eh ben, on l'écoute. Et voilà, on est donc sur Radio Vassivière, on est à la Métive et c'est l'heure eh bien, des questions du public. Alors bonjour public.
Bonjour, moi du coup j'avais deux questions. La première c'était, alors ça fait un moment dans la discussion, mais tu parlais de Belle Delphine. Moi je voulais savoir, on peut pas parler en vrai des catgirls et de la fétichisation, notamment tu parlais des écolières japonaises, etc., sans parler de pédophilie. Comment toi tu te sens, est-ce que déjà tu l'abordes dans ton spectacle et comment tu vas l'aborder? Vas-y. Et ma deuxième question, c'est que produire un grand nombre de boîtiers pour les spectacles, ça peut pas être très compliqué techniquement. Voilà, moi c'était mes deux questions.
Eh ben grave, merci pour cette question. Absolument, la pédophilie et la pédocriminalité sont des sujets du spectacle, abordés plus ou moins frontalement selon les scénarios. Dans le scénario 1, ça arrive pas trop, c'est plus sur des enjeux d'appropriation culturelle. Et dans le scénario 2, ça arrive déjà. Le scénario 3, il s'appelle soft porn. Et le scénario 4, il y va très très frontalement. Parce que, absolument, c'est tout de suite une question de fétichisation des mineurs et des corps d'enfants. Dans le spectacle, ça arrive par la forme, par deux formes. La forme des trolls, qui potentiellement vont faire des raids, donc des arrivées massives dans le chat du stream pour venir comme ça saturer l'espace visuel. Et peut-être aussi saturer ses réseaux sociaux ailleurs. Peut-être qu'il y a un enjeu de... Tout ça est hypothétique parce que c'est encore des choses sur lesquelles je travaille, mais je veux dire, la forme, le fond, c'est sûr qu'il sera là. Peut-être qu'il s'avère qu'elle a produit, qu'elle a été groomée, donc prédatée quand elle était encore plus jeune, quand elle avait 9 ans, qu'elle est arrivée sur Discord, qu'on lui a fait faire des petits défis filmés qui en fait sont des vidéos pédopornographiques qui sont ensuite partagées dans des canaux Telegram. Là, il y en a eu un pendant le confinement, donc ça commence un peu à dater, mais il y a eu un collectif qui s'est monté qui s'appelle Stop Ficha, justement pour faire fermer des canaux Telegram dans lesquels il y avait plus de 200 000 personnes qui se partageaient des vidéos pédopornographiques. Voilà, donc c'est une réalité d'internet et des usages des réseaux malheureusement. Donc ça, je pense que ça peut arriver par, en tout cas dans mon écriture, ça arrive par les trolls et donc notamment les communautés masculinistes, peu importe leurs âges, mais ça commence très tôt avec les influenceurs, notamment sur des forums. Il y a 4chan qui est un peu le plus connu de tous, mais jeuxvideo.com, le forum 1825 qui est bien connu de la génération qui a grandi en ligne en 2000-2010. Et par aussi des fans qui sont dans le chat, qui sont justement dans une forme d'idolâtrie de Blanche, et qui du coup vont prendre le rôle de modérateur, a priori, en s'érigeant en défense contre les trolls, et donc obtenir des droits de modération sur le chat qui permettent en fait du coup de silencier des participants au chat, de les jeter hors du chat aussi, et qui du coup en fait est un espèce de privilège qui est octroyé dès que les chats grandissent un peu, parce que ça donne un statut particulier et donc ça donne une relation particulière à la personne qui stream. Et donc c'est un peu cette espèce de double communauté, enfin à la fois de haine, à la fois d'adoration, mais qui en fait mène au même endroit, qui est un endroit de prédation, qui peut prendre plein de formes différentes. Et que moi j'ai vécu d'abord sur Facebook, à l'ancienne, par des demandes de messages, enfin par des ouvertures de messages, des demandes qui vont très rapidement dans l'échange vers de la séduction qui n'en est pas, et vers des avances et vers des demandes de faire des news, par exemple, typiquement, c'est vraiment le grand format d'approche, quoi, de demander des photos dénudées. Et ensuite, souvent, de demander des choses en échange derrière, enfin de faire des menaces à la divulgation de ces clichés pour en demander encore d'autres, etc. etc. Donc tout ça, oui, absolument, c'est abordé dans le spectacle. C'est un des grands enjeux, justement, parce que pour moi, le fétichisme de l'écolière japonaise, en effet, c'est ça, c'est un fantasme pédocriminel raciste. Et il y a un très beau spectacle de Marion Seyfert qui s'appelle Daddy, qui parle justement de ces questions-là au théâtre, qui moi a été vraiment un choc esthétique, et c'est un des premiers spectacles où je me suis dit, ah, deux choses, c'est possible de parler des jeux vidéo au théâtre, et en fait super intéressant, et ensuite en fait Daddy, ça passe complètement à côté des questions raciales. Ça parle de grooming, ça parle de prédation d'un homme de 26 ans sur une jeune fille de 13 ans, mais ça, c'est que des personnages blancs, et moi je me suis dit, moi ce que j'ai vécu c'était pas du tout ça, Et donc j'ai aussi envie de parler de ça parce que je pense que c'est un point important. Est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, et merci à toi de faire ce genre de spectacle parce que c'est hyper intéressant et c'est important de les avoir. Notamment, je trouve qu'on n'a pas assez encore de choses qui parlent des communautés Internet en dehors d'Internet. Et je trouve ça hyper intéressant que tu puisses faire ça. Donc merci à toi.
Merci.
Et la deuxième question du coup qui correspondait aux...
C'est les boîtes. Ouais. Lui, tu veux répondre ?
Alors j'aimerais répondre aussi bien que le Fred Team qui n'est pas là et qui s'occupe des dites boîtes.
Merci Tim de t'occuper des petites boîtes.
Tim qui donc oui est architecte logiciel et qui s'ennuie à crever dans son job dans une boîte qui fait de la billettique, voilà, qui fournit des solutions de billettique à des sociétés de transport comme la RATP. Donc dès qu'il a une excuse pour faire autre chose et en particulier du spectacle vivant parce qu'il adore ça aussi, eh ben il l'attrape et en l'occurrence c'est concevoir lui-même les PCB, le code et tout ce qui va avec pour faire fonctionner ces petites boîtes.
C'est quoi un PCB, lui ?
Un PCB, c'est Printed Circuit Board, c'est le circuit imprimé, qui est la partie verte avec des traces dorées dessus, qui permet d'accrocher ensemble tous les petits morceaux électroniques qui font fonctionner les petites boîtes et de les mettre dans les petites boîtes. Donc Tim te dirait que, en fait, c'est un peu compliqué de les concevoir et de les fabriquer, mais on peut en faire des prototypes et ça fonctionne. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu as une jauge de 200 places et que tu veux une boîte par personne, ça fait 200 boîtes, donc si la boîte elle coûte 3 euros x 200, en fait, d'un coup, c'est beaucoup pour une compagnie qui n'a pas de sous. Donc la partie compliquée,
pas
en fait...
Pas de sous, mais plein d'ambition.
Voilà. La partie compliquée, c'est pas tant ni de les produire, parce qu'on peut commander toutes les pièces, les faire sur mesure, et c'est des prix relativement raisonnables. Le concevoir, c'est faisable aussi, il faut juste trouver un team. Le problème, c'est vraiment l'échelle. Et le faire pour 200 personnes, 1000 personnes... Bon, 1000 personnes, ça ferait peut-être beaucoup pour ce spectacle, mais c'est
une, je sais pas si on joue dans
une dynamique intéressante à explorer aussi, peut-être.
Et ben, du coup, on a une autre question du public.
Tu parlais tout à l'heure d'interroger la responsabilité collective, la responsabilité du groupe par rapport aux choix qui seront faits par le public. Et moi, je me demandais comment ce serait interrogé concrètement. Est-ce qu'il y a seulement... cet enjeu de les choix mèneront à soi, entre guillemets, la bonne fin ou la mauvaise fin. Est-ce que c'est la seule chose ? Parce que j'ai peur que ça ne suffise pas de juste punir, entre guillemets, avec la mauvaise fin. Parce que dans le jeu vidéo, justement, on voit souvent des gens qui font exprès de faire tous les pires choix pour aller chercher la mauvaise fin. Parce que c'est intéressant aussi de voir ce que ça fait et tout ça. Du coup, voilà. Comment vous allez questionner ça ?
Grave. En plus, moi, j'avoue, pour l'instant, ma fin préférée, c'est la mauvaise fin. Parce que je trouve que c'est la plus... qui raconte le plus de choses. Mais donc, oui, un truc que j'ai tout à fait oublié de dire tout à l'heure, c'est que, outre le spectacle, moi, j'ai envie que ce soit une condition de jouer le spectacle, qu'on fasse un bord plateau après, et que ce bord plateau soit animé par une asso, idéalement locale, qui soit formé aux enjeux du numérique, aux enjeux collectif enfantiste par exemple, aux droits des enfants, à la justice féministe et raciale, parce que justement ça me paraît très important de faire ce relais là politique et avec des gens qui sont sur le terrain encore une fois et qui peuvent aussi parler de parce que il y a aussi beaucoup cet endroit de... Moi, je fais ce spectacle... Je vais arriver à faire une phrase. Je fais ce spectacle parce que c'est plus facile de partir d'un stream que de partir d'un théâtre ou de partir d'une salle où il y a des gens dans la vraie vie. Mais c'est aussi plus facile de sortir d'un spectacle que de sortir d'un bord plateau où il y a une asso qui dit des trucs. Et donc, j'aimerais bien que ça fonctionne en dialogue comme ça. Pour moi, c'est vraiment très important que ce soit une condition, quoi. On ne joue pas s'il n'y a pas ce temps d'échange possible après pour interroger justement la responsabilité collective dans la fiction, mais aussi dans la vraie vie, qu'on puisse dire, notamment si on arrive à la mauvaise fin, qu'on puisse dire « Ok, parce que la mauvaise fin, elle va quasiment jusqu'à un acte pédopornographique aux phases publiques, et dans ma tête, c'est interrompu par une comédienne qui est cachée depuis le début, qui est une comédienne asiatique. Il y a des moments...
Tu spoil, là.
Ouais, je spoil. Mais il y a des moments de confrontation dans tous les scénarios avec des personnes asiatiques sous différents formats. Mais du coup, c'est aussi pour ça que la dernière fois, c'est ma préférée. C'est parce que ça arrête le spectacle dans la vraie vie, pas dans la fiction. Ça arrête dans la vraie vie avec une comédienne qui peut-être a priori serait moi pour des questions de budget, pour que je puisse suivre le spectacle en tournée. Et intervenir quand même à ce moment-là. J'ai même giga spoilé, je vais dire mon grand rêve, parce que j'ai l'impression que plus je le dis, plus ça le manifeste dans la vraie vie, et peut-être après ce sera réel.
mon grand, grand rêve, c'est que si on arrive à cette mauvaise fin, que donc, je vienne interrompre le spectacle en disant « ça suffit, on arrête », en jeu, pas en mode « bonjour, je suis le metteur en scène », et qu'on puisse faire sortir le public blanc de la salle et que l'assaut les récupère dans le hall du théâtre, ou en tout cas dans un endroit qui n'est pas confort, et qu'on puisse avoir un temps avec la comédienne qui joue Blanche en tant que comédienne, pas en tant que personnage, l'assaut, et qui donc un temps de débrief collectif, justement, voilà, d'échange, de responsabilité collective, comment on est arrivé là, etc., etc. Et que les personnes racisées dans la salle restent avec moi au plateau, et qu'on fasse un petit moment de care collectif, qui je pense sera nécessaire, car... qu'est-ce que ça fait de reproduire des violences pour les dénoncer ben, potentiellement, ça fait très mal aux gens qui les ont déjà vécues. Et donc, j'ai aussi envie de prendre ça en charge. Enfin, ça, c'est tout l'enjeu de mon travail aussi, c'est d'être sur cette ligne entre comment on fait du mal aux personnes qui... aux agresseurs, agresseureuses, et comment on fait du bien aux victimes dans le même temps. Et donc, ça, c'est une de mes solutions. Après, voilà. Le milieu du théâtre est plus ou moins prêt avec ce type de dispositif. Donc, voilà, je le dis aussi pour... et parce que je sais qu'en fait, c'est possible de le faire. Rebecca Chaillon le fait. Et c'est la première à réussir à le faire. Et donc, j'espère que ça ouvre la voie aussi pour d'autres personnes. Mais je me dis, plus on le dira. En fait, c'est un dispositif artistique. C'est pensé, c'est réfléchi, ça a du sens. Plus, j'espère, on va pouvoir faire ça sans que ça lève des tollés et qu'après, on puisse juste discuter. Parce que le but, c'est aussi vraiment de discuter de tout ça.
C'est intéressant, en fait, cette dualité entre fiction et réalité, puisque là, finalement, tu scénarises même l'after du spectacle.
Oui, bah c'est mon rapport à la performance, au fait que...
Là, ça tient du happening, quoi, en
fait. Oui, c'est ça. Que tout ce qui se passe... Pour moi, ce qui est intéressant dans la performance, c'est que le temps est le vrai temps. Alors là, c'est plus ou moins le cas, parce que c'est quand même 7 jours, et on ne va pas passer 7 jours dans un théâtre, parce que c'est fatigant. Mais, mais que oui, il y a quand même un rapport de... En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est le vrai public, et c'est les vrais gens qui font des vrais choix, dans la vraie vie de ce moment. Et du coup, bah ensuite, on peut en discuter en tant qu'humain et pas juste public et comédien-comédienne. Et ça, ça me fascine, en fait, la performance et le rapport au public. Et donc, c'est aussi grave quelque chose que j'ai envie de traverser avec ce spectacle et qui, je pense, j'espère, peut-être, c'est un vœu pieux, peut aider à la prise de conscience collective plus que...
C'est un happening militant, quoi.
C'est, bah en tout cas, c'est faire le flou politique, enfin le flou entre les deux, pour en effet aller chercher ça.
On continue avec une question qui sera, je pense, la dernière, parce qu'on arrive aux 1 heure de plateau, et que voilà, il va falloir rentrer chez nous un jour. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Pour moi, ce n'est pas très souvent que j'ai l'occasion de partager ce genre de création, donc c'est très intéressant en tant que public de découvrir comment ça se passe et les réflexions qui mènent les artistes à leur réflexion. Et du coup, je suis assez fasciné par l'histoire du vote. Je m'imagine une salle avec... alors justement, quelle jauge, je ne sais pas combien de personnes. Et en fait, je me questionnais sur le... Alors peut-être que c'est un côté naïf de ma part, mais sur le fait qu'en fait, s'il y a une masse importante, est-ce que le risque, ce n'est pas que les votes convergent de manière assez... à chaque spectacle, vers quelque chose d'assez similaire? Alors peut-être que c'est très naïf de ma part de me dire qu'en fait, bon, bah, on va tous être policés et du coup aller vers plutôt la fin positive. Voilà, je me demandais si c'était des questions qui vous traversaient aussi. Comment gérer cet aspect-là?
Oui, bah, c'est la grande inconnue, mais c'est ce qui rend tout le processus excitant. C'est de me dire, ok, ben, moi j'ai mon envie personnelle qui est ma fin préférée, c'est la mauvaise fin, et du coup j'ai trop envie qu'on aille là. Mais aussi, ben. En fait, je sais pas. C'est la beauté de la performance aussi pour moi. C'est ce truc-là de, en fait, et ça m'intéresse justement énormément de savoir, selon les endroits où on jouera, car nous allons avoir de la prod et ce spectacle va jouer. justement, quelles sont les différentes fins? Est-ce que finalement tout le monde choisit la mauvaise fin? Est-ce que c'est différent en fonction de l'âge du public? Est-ce que c'est différent sur des temps de scolaire? Est-ce que c'est différent selon la composition du public ce soir-là, selon l'endroit géographique où on joue?
C'est ça. En fait, on a l'habitude dans ce genre de système de vote et des sondages en général de voir des résultats souvent qui convergent à chaque itération parce que c'est fait sur des échantillons censés être représentatifs. Alors que dans le spectacle vivant, les publics sont très divers, autant au sein d'un même public qu'entre différents publics que va croiser un spectacle pendant sa tournée.
Ça dépend des lieux, quoi.
Ça dépend des lieux. Mais du coup, c'est en discutant à chaque fois avec des gens que je croise en tournée, ils vivent très différemment chaque représentation parce que tous les publics en tant que groupe, en tant qu'audience, sont différents. Donc on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des différences visibles dans les interactions sous forme de vote électronique dans ce spectacle.
Et je me rends compte que je ne l'ai pas dit, et c'est un truc super important, mince. Il y a une slide qui est prévue dans les temps de questions, donc il y a la question, il y a les choix, et ensuite il y a une slide avec les pourcentages en temps réel des choix qui ont été faits. Et ensuite il y a une dernière slide en mode, ok, on a choisi ça, et ben on y va. Et donc ces pourcentages en temps réel, ils nous permettent aussi de traquer potentiellement à chaque représentation l'ensemble des choix qui ont été faits, parce que finalement les statistiques, c'est super. Enfin, ça dépend pourquoi, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette réflexion d'essayer d'en dégager quelque chose sans faire non plus de la recherche ou de la socio, mais d'avoir un point de vue là-dessus, quoi. Puis toi, t'aimes bien les statistiques, donc c'est super.
Touché.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Steph, il me semble que tu avais une dernière question.
Ouais, tout ce travail de différentes résidences les unes après les autres, là, l'idée, c'est que le spectacle, vous avez une projection, une idée de quand est-ce que ça va être prêt?
Eh bien, avec les temporalités du spectacle vivant, au plus proche et à l'idéal, la première du spectacle, c'est au printemps 2028.
Ouh.
Et oui, parce que c'est long. Moi, là, ce que je me dis, c'est que j'écris le texte jusqu'à la fin de 2026 et que j'ai une première vraie version avec tout. Et qu'à partir de 2027, on fait du travail plateau et on cherche des sous. Enfin, on cherche déjà des sous maintenant, mais on cherche des sous au long cours comme ça. Et jusqu'à avoir des vrais accompagnements par des lieux et pouvoir faire la première, du coup, dans un cadre chouette, soutenu et qui aussi amène à une tournée derrière. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'autoproduction de spectacles et en fait, c'est tellement la bagarre déjà pour obtenir une date, mais après, quand ça s'arrête, c'est très dur d'avoir passé.
Il ne faut pas que ce soit un one-shot, quoi.
Oui, voilà. Énormément de temps en résidence pour jouer quatre fois, et c'est tout. Donc, là, ce qu'on cherche, c'est à créer les conditions pour que ça se passe bien. Et si tout se passe bien, ce sera printemps 28, et ensuite, en route pour des années de tournée, des centaines de représentations
à l'international. Vers l'infini et au-delà.
Exactement.
Mais écoute, merci Steph, on croirait presque que tu fais de la radio tellement c'était une belle conclusion.
Non, je fais de la web radio.
Ah, et on aura l'occasion d'en reparler, peut-être à l'antenne de Radio Vassivière. J'ai appris cette information avant le début de ce plateau. Merci en tout cas à vous trois d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir raconté tout ça. Mille, on te retrouve quelque part
Oui, je suis sur Mastodon. Et sur Instagram sous le même nom qui est Mille Pertuis 1000 Pertuis P-E-R-T-U-I-S parce que Mille c'est mon nom et Mille Pertuis c'est mon nom d'artiste.
Très bien. Lui, on te retrouve quelque part?
Oui, ben moi en personne pas forcément, mais après l'association Netfreaks, N-E-T-F-R-E-A-K-S, petit jeu de mots, on est en fait une association de gens qui s'intéresse à l'informatique et à la vidéo et au croisement entre les deux, et on est un peu rentré en collision avec 88 mètres par seconde avant que ça s'appelle comme ça, et maintenant on ne se lâche plus, mais on a plein d'autres petits projets comme ça aussi sur l'accès au numérique et le logiciel libre et ce genre
et
de choses, et on filme beaucoup de drag, je sais pas pourquoi, c'est super, mais voilà.
Steph,
tous les jours de la semaine ou quasiment à la quincaillerie en vrai, dans la vraie vie. Et pour je me fais ma petite pub, www.icilandradio.fr pour mon autre vie.
Très bien. Et eh ben écoutez Ici Londres Radio, parce que sachez que ici apparemment on capte pas, en tout cas aujourd'hui on ne captait pas le 88.6. Donc au moins vous pouvez capter la web radio. Voilà, merci beaucoup. On se quitte sur un morceau. Mille, est-ce que tu veux me le présenter?
Oui, c'est l'ouverture de l'animé Neon Genesis Evangelion que je n'ai pas vu mais qui est l'animé préféré de ma meuf. Donc un peu de lesbianisme pour cette fin d'émission. Merci Justine.
「知らない痛いけない」 眠ってる私の愛のゆりかごあなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を